8h sur Inter. Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une, le compteur des médailles françaises. Va-t-il s'ouvrir dès aujourd'hui aux Jeux Olympiques d'hiver? Les biathlètes entrent en piste à 10h pour le relais mixte. Tous les détails avec Laetitia Bernard dans le journal des sports. Les autres titres, Christelle.
Ils se coursent à distance. Marine Le Pen est en meeting à Reims, Éric Zemmour à Lille. Et le polémiste compte défendre le pouvoir d'achat pour mieux siphonner les électeurs de sa rivale. Dans ce journal, un forum de l'islam de France pour structurer le culte musulman dans notre pays. Il sera installé aujourd'hui après l'échec du Conseil français du culte musulman.
Oui, et nous en parlerons à 8h20 avec notre invité, le politiste et directeur de recherche au CNRS, Franck Frégosi.
L'Union européenne qui sanctionne la junte au Mali après l'expulsion de l'ambassadeur de France. Et puis une odyssée qui est à la fois un voyage dans l'espace et dans le temps. Une expédition part aujourd'hui d'Afrique du Sud vers l'Antarctique pour retrouver l'Endurance, le bateau de l'aventurier Ernest Shackleton. Un siècle après son naufrage.
France Inter.
L'or noir n'a jamais aussi bien porté son nom. Les prix n'en finissent pas de grimper à la pompe et le pouvoir d'achat s'impose comme la principale préoccupation des Français à 65 jours du premier tour de l'élection présidentielle. 2 centimes de plus en moyenne la semaine dernière encore. Le gazole affiche 1,67 € en moyenne, le SP95 1,74 €. Certaines stations ont même dépassé le cap des 2 € le litre et ça plombe nos budgets. Reportage à Paris, Thomas Giraudoux.
À 1,92 € le litre de gasoil, dans cette station du 15e arrondissement de Paris, le compteur monte très vite.
Je suis parti pour 50 € et j'ai eu pour 25 litres 71.
Le budget essence de Ben a explosé, il appréhende déjà le litre à 2 €.
De mes souvenirs, moi je suis assez jeune, j'ai 23 ans, donc j'ai jamais connu un prix aussi élevé au niveau de l'essence. Et donc voilà, quand on est un jeune adulte, quand on vient rentrer dans la vie active et que des choses aussi nécessaires que l'essence augmentent, à ce point, on se dit quand même qu'il va falloir vraiment faire attention aux différentes dépenses qu'on a.
En scooter aussi, la facture est salée pour Pierre.
Quasiment 20 € pour un plein, pour 10 litres d'essence. Donc on est bien à quasiment 2 € de litre. On fait attention le plus possible à consommer le moins possible, d'avoir une conduite un peu plus économique. Mais ça suffit pas, vu le prix de l'essence. Du coup, ça fait un peu mal au portefeuille.
Et le prix de l'essence va encore augmenter car le baril de pétrole a atteint un nouveau sommet, 90 $ en fin de semaine dernière. Un record que l'on va bientôt ressentir à la pompe, explique Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières.
C'est seulement au minimum dans une semaine que nous paierons la réalité de ces 90 $ le baril. Les plus chers des stations pourraient assez rapidement passer la barre des 2 € le litre.
Certains analystes prédisent le pire, un baril qui dépasse les 100 $ d'ici cet été. Le prix à la pompe n'est pas prêt de baisser.
Et ce n'est donc pas par hasard si Éric Zemmour, jusque-là préoccupé par les questions d'immigration et d'identité, recentre sa campagne sur le pouvoir d'achat. Il annonce 8000 personnes à son meeting à Lille tout à l'heure. Au passage, il fait coup double en chassant délibérément sur les terres de sa meilleure ennemie, Marine Le Pen, Élodie Forêt.
L'électorat populaire et l'électorat clé analysaient en novembre dernier Marine Le Pen, certaine d'avoir dans ce domaine une longueur d'avance. À Lille, capitale d'une région frappée par la désindustrialisation, Éric Zemmour va donc tenter de rattraper son retard, d'aller au-delà de son corpus idéologique habituel. Après le grand remplacement, il faut désormais parler du grand déclassement, insiste l'un de ses conseillers. Objectif, convaincre que son programme, principalement axé sur l'immigration zéro, aura un impact sur le social et le pouvoir d'achat. En priorisant les nationaux, explique l'équipe du candidat, on redonne de l'emploi. On favorise nos industries. Une priorité nationale que propose aussi Marine Le Pen. Alors comment se différencier? Nous, on ne rejoue pas la lutte des classes, souffle Benjamin Cauchy, orateur national de Reconquête. Avec davantage qu'un clivage entre classe populaire et CSP+, martelé sur le clivage entre France métropolitaine et France périphérique.
Marine Le Pen, elle, ouvre sa convention présidentielle à Reims. C'est maintenant que ça se joue, a-t-elle dit à ses troupes. Et dans ce qui ressemble à une primaire sauvage, les deux candidats d'extrême droite se livrent à une bataille de mots. Éric Zemmour la compare à Arlette Laguiller. Elle considère qu'il défend le village d'Astérix.
Comment réorganiser l'islam de France? Le Conseil français du culte musulman a vécu. Voici le forum de l'islam de France.
L'islam est la deuxième religion de notre pays. Elle compte 6 millions de fidèles. De nouveaux représentants se réunissent aujourd'hui au siège du Conseil économique, social et environnemental à Paris. L'idée, c'est d'en finir avec les ingérences étrangères. Alors faisons le point avec vous, Rémi Brancato, bonjour.
Bonjour.
Gérald Darmanin, qui est aussi ministre des Cultes, propose donc cette nouvelle formule. Les acteurs de l'islam viendraient de nos territoires et le gouvernement espère une meilleure représentativité des musulmans.
Oui, le CFCM est un échec. Ce pari de Nicolas Sarkozy en 2003 pour unir les différentes fédérations musulmanes rattachées chacune à leur pays d'origine aura tenu moins de 20 ans. Critiqué pour ses divisions, pour son manque de représentativité, car moins de la moitié des 2600 mosquées en France y adhèrent. Il explose ces derniers mois car le gouvernement lui propose une charte des principes de l'islam. Ceux qui refusent de signer ne sont plus des interlocuteurs. En décembre, Gérald Darmanin déclare le CFCM mort. Le ministre de l'Intérieur pousse aujourd'hui ce faux rif avec un nouvel habillage des acteurs issus de chaque département des assises territoriales de l'islam. On promet que la moitié des 80 membres viennent de la société civile. L'objectif, c'est de limiter les influences étrangères.
Et quelle décision peut-on attendre, Rémi, de ce nouveau forum de l'islam de France ?
Eh bien, il y a déjà 4 groupes de travail sur la formation des imams, d'autant que le gouvernement interdira l'an prochain les imams détachés depuis leur pays d'origine. Sur la sécurité des lieux de culte, sur l'organisation des aumôneries et enfin sur l'application de la loi sur les principes républicains. L'État entend limiter le financement par l'étranger du culte musulman et incite à trouver de nouveaux modèles comme peut-être une répartition des revenus du pèlerinage à la Mecque. Mais dans son discours cet après-midi, Gérald Darmanin se gardera de donner des conseils. « Je ne suis pas là pour faire la morale aux musulmans », nous dit-il. Laïcité oblige et bien conscient que d'autres avant lui ont tenté de structurer un islam de France sans succès.
Rémi Brancato, et nous y reviendrons à 8h20 avec le politiste directeur de recherche au CNRS, Franck Frégosi. L'escalade continue dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. 3 jours après la décision du Mali d'expulser l'ambassadeur de France, l'Union européenne impose des sanctions aux autorités de transition. Des sanctions lourdes qui frappent en premier lieu le Premier ministre Chokel Maïga, Claude Guibal.
Gel des avoirs, interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union européenne, des sanctions qui frappent haut. Le Premier ministre malien Chokel Maïga, mais aussi Malik Diop et Ismaël Ouagé, considérés comme les instigateurs du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. En d'autres mots, le premier cercle, la garde rapprochée du chef de la junte Assimi Goïta. Avec eux, 2 autres responsables, tous déjà visés par des sanctions de la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne vient donc marquer son plein soutien au discours de l'organisation régionale, mais elle resserre aussi les rangs en se posant en interlocuteur de premier plan face au Mali, renvoyant l'image d'une Europe pleinement solidaire de la France. Une Europe qui doit se prononcer d'ici 10 jours désormais sur l'avenir de Takuba, cette coalition de forces spéciales européennes qui devait venir en substitut de Barkhane et dont l'avenir semble aujourd'hui plus que jamais compromis.
Chaque minute compte pour sauver le petit Ryan au Maroc. L'enfant de 5 ans est tombé dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur mardi. Les secouristes ont engagé la dernière phase de forage la plus risquée, la plus délicate, qui consiste à creuser un bout de tunnel à l'horizontale pour l'atteindre. En attendant, ils lui ont fourni de l'oxygène et de l'eau, mais on ne connaît pas son état physique. Des milliers de badauds sont sur place en signe de solidarité. Les médias et les réseaux sociaux au Maroc suivent toujours en direct cette opération. On appelle ça la dotation horaire globale et c'est le sujet de préoccupation du moment dans l'éducation nationale. Chaque collège et lycée reçoit en ce moment l'enveloppe d'heures de cours qui lui sera attribuée pour l'année prochaine. Elles sont ensuite réparties par discipline. Il y aura 440 emplois de moins dans le second degré à la prochaine rentrée et c'est l'inquiétude. À Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, par exemple, le collège Georges Pompidou en éducation prioritaire perd 50 heures d'enseignement. Les enseignants étaient en grève toute la semaine, soutenus par certains parents, avec 6 autres établissements concernés. Sonia Princet.
Nous en sommes conduits.
Moins d'heures d'enseignement attribuées signifie des classes plus chargées. Jamila, parent d'élèves FCPE, soutient le mouvement des professeurs.
C'est pas possible. Classe surchargée, non. L'année prochaine, plus une classe fermée en 6e, je comprends pas. Avec la pandémie, au contraire, il faudrait qu'ils revoient l'organisation du collège.
Kevin Lelorieux est l'un des professeurs du collège Georges Pompidou.
Depuis 7 ans dans le collège, on a 20 élèves de plus. On ferme des classes alors qu'on devrait en ouvrir.
Même chose juste en face, au lycée Michel-Ange, ce sont 2 classes de seconde et une classe de BTS qui vont disparaître à la rentrée, selon Samia Roche, elle aussi enseignante.
En philosophie, par exemple, en terminale générale, il n'y aura pas de demi-groupe. On ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, on ne peut pas individualiser notre travail.
Ce qui est pourtant indispensable en REP, réseau d'éducation prioritaire, Aladin Petit, professeur de PS, s'interroge sur cette politique.
À Villeneuve-la-Garenne, on est la ville la moins favorisée socialement des Hauts-de-Seine. On est à 200 mètres de la Seine-Saint-Denis. Donc bien sûr qu'on a besoin d'heures tout particulièrement, mais comme toutes les REP, c'est une politique nationale, c'est pas un problème départemental. La destruction des horaires en REP, ça ne touche pas que le 92.
Avec la priorité à l'école primaire, au niveau national, les collèges et les lycées ont perdu depuis 5 ans 7900 postes, ce qui serait l'équivalent de 175 collèges rayés de la carte.
Un reportage Sonia Princet. Vaccination obligatoire pour les adultes de plus de 18 ans à partir d'aujourd'hui en Autriche. C'est le premier pays de l'Union européenne à aller aussi loin. Des manifestations sont prévues. Ceux qui refuseraient de se plier à cette obligation risquent 3600 euros d'amende.
Voilà une expédition pour retrouver une première expédition mythique.
Oui, celle de l'anglais Ernest Shackleton. Il était parti en Antarctique en 1914 à bord d'un trois-mâts, l'Endurance, avec 26 équipiers. Il avait fini par rentrer malgré des conditions de survie extrêmes avec tous ses hommes, mais l'Endurance, restée prisonnier des glaces, avait fini par sombrer. Eh bien, une expédition part aujourd'hui de Cape Town en Afrique du Sud pour retrouver l'épave, Sophie Becherel.
Où chercher dans l'immensité de la mer de Weddell, partiellement gelée? L'expédition Endurance 22 vise un point précis, la position calculée au sextant par le capitaine du navire et consignée à l'époque dans son carnet de bord. Dans cette zone, la banquise est très épaisse. Seul un brise-glace peut atteindre le lieu supposé du naufrage. Le navire sud-africain n'a pas le droit à l'erreur, explique Nicolas Vincent, le responsable de toutes les opérations sous-marines.
Il peut y avoir entre environ 1 à 4 mètres de glace. Alors il faut choisir l'endroit qui est le plus approprié. Donc il faut slalomer, mais ce n'est pas le seul problème. Il faut qu'on soit absolument sûr d'être à la verticale de la zone de recherche.
Il a prévu de déployer 2 drones. Équipés de sonars, ils descendront jusqu'à 3000 mètres de profondeur. À l'époque, enserrés par la banquise, broyés, l'Endurance s'était couchée. Après plusieurs semaines, le navire avait sombré face à 26 hommes impuissants, mais confiants dans leur salut. Ces naufragés de la banquise avaient en effet survécu encore 2 ans avant d'être secourus. Que reste-t-il de l'épave? Le bois a-t-il été épargné par les eaux glacées? Nicolas Vincent vise une pièce précise.
On sait que ce navire, il était certes à voile, mais il était aussi à vapeur. Donc il a une énorme machine à vapeur et nous c'est ça qu'on cherche.
Déjà tentée en 2019, cette recherche d'épave est hors norme. Si elle réussit, ce serait le point final de l'Odyssée de l'Endurance.
Et vous pouvez suivre cette nouvelle épopée sur le compte Twitter Endurance 22.
D'autres moments épiques, ce sont les Jeux Olympiques et c'est dans le journal des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Et déjà un espoir de médaille ce matin dans le camp tricolore.
Du côté du biathlon avec le relais mixte, les Bleus sont les tenants du titre. Bon alors il y a 4 ans, Martin Fourcade était dans l'équipe en patron incontesté. Mais cette année, les Français, ils jouent sur un collectif très très fort. Une autre épreuve impressionnante à regarder aujourd'hui à Pékin, c'est celle de ski de boss. Bonjour, boss pardon. Bonjour Xavier Monferrand.
Ah bah ça glisse.
Ça commence,
hein,
voilà, ça fourche. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Laetitia Bernard.
Alors, vous êtes à Pékin pour France Inter. Normalement, quand on dit ski de boss, on pense à Perrine Laffont. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les épreuves masculines. Et que dans l'ombre de la championne, il y a un autre prétendant au podium chez les Français.
Ouais, c'est pas facile, hein, effectivement, d'évoluer dans l'ombre d'une championne comme Perrine Laffont, qui incarne à ce point sa discipline. Mais Benjamin Cavet, lui aussi, vaut bien une place au soleil. Lui, le gamin d'Angleterre, oui, comme son nom ne l'indique pas, naturalisé français, arrivé à 10 ans dans les Alpes pour rejoindre son père, moniteur de ski, et qui est devenu, eh bien, un porte-drapeau tricolore. Particulièrement sur ces JO en Chine, où Benjamin Cavet a impressionné en qualification, 3e sur le podium virtuel, de quoi le rassurer avant la finale.
En forme, je suis encore vraiment capable de faire des top 3, de viser la médaille. J'ai fait des super entraînements ici, donc il n'y a plus qu'à rester concentré et faire ce que je sais faire en compète. C'était dur cette saison parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé et puis je me retrouve avec une petite blessure. J'ai de l'usure au talon en fait. Il y a des gens, ils pensent qu'ils bossent, ils me disent les genoux, le dos, ça va. Mais en fait, moi, c'est mes talons, quoi. Donc, ça tape vraiment dans les bois. Et moi, ça m'a gêné un peu toute la saison. Donc, pareil, content d'être là et je vais pouvoir m'exprimer à fond.
Et si son talon le laisse tranquille, il faudra venir le chercher, Benjamin Cavet, car l'ombre de Perrine Laffont ne l'a jamais empêché de briller. Lui qui est deux fois vice-champion du monde de boxe veut cette fois ne pas laisser passer sa chance de monter sur un podium olympique pour ses troisièmes JO.
Et ben on verra ça vers midi et demi. Merci beaucoup Xavier Monferrand en direct de Pékin. Il y a une autre épreuve aujourd'hui, c'est le short track, patinage de vitesse. Et c'est la discipline qui a offert à la Chine ses toutes premières médailles lors de Jeux olympiques d'hiver. Est-ce que vous saviez où est Et quand c'était ?
Non, mon Dieu.
C'était en France, à Albertville, en 1992.
Au siècle dernier, quoi.
Oui.
Après la glisse, les plaquages, c'est le début du tournoi des Six Nations.
Entrée en lice du tenant du titre cet après-midi. Alors non, le tenant du titre, c'est pas la France, hein, c'est le Pays de Galles qui affrontera l'Irlande à 15h15. Les Français, eux, ils débuteront demain contre l'Italie. Des Bleus favoris quand même cette année, tous les observateurs le disent, les pronostics le disent. Mais hormis l'Italie, les autres équipes aussi, elles ont de sérieux arguments à faire valoir. On fait le tour d'horizon avec vous, Vincent Pellegrini.
Le 15 de France n'est pas la seule équipe européenne à avoir fait chuter les All Blacks en novembre dernier. Au terme d'un match d'une grande intensité, l'Irlande avait également réussi cette prouesse. Signe du potentiel du 15 du trèfle, même s'ils ont un calendrier délicat avec deux déplacements en France et en Angleterre, les coéquipiers de Johnny Sexton sont des candidats logiques à la victoire finale. Après un dernier tournoi très décevant, achevé à une piteuse cinquième place, l'Angleterre est revancharde. Son succès il y a trois mois face au champion du monde sud-africain est porteur d'espoir. Vainqueur l'an dernier en Angleterre et au Stade de France, l'Écosse est en pleine renaissance et s'inscrit comme un outsider sérieux dans cette édition. Quant aux tenants du titre gallois, ils sont certes affaiblis par de nombreuses absences, mais leur capacité à faire mentir les pronostics n'est plus à prouver. Le Pays de Galles a remporté deux des trois derniers tournois.
Et je précise que les Bleus, demain, eux, seront privés de leur sélectionneur Fabien Galthié. Il a été testé positif, il est donc placé à l'isolement.
Et oui, il n'y a pas de bulle olympique dans le rugby.
Merci Laetitia.
Bernard et Christelle Rebière, le temps de ce samedi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et ce matin, il fait encore un peu froid, Jean-Michel Golinski.
De fréquentes gelées au lever du jour du centre Val-de-Loire au quart nord-est, souvent entre moins 1 et moins 3 degrés. De part et d'autre, les températures négatives sont quand même beaucoup plus rares, avec déjà 6 à 8 degrés relevés près de la Manche et dans la moitié sud. Et aujourd'hui, pas mal de soleil en vue après la perturbation d'hier qui termine de traverser le sud du pays. Et avant l'arrivée d'un temps perturbé la nuit prochaine par la Manche, qui va s'accompagner d'un vent très turbulent et de pluie demain. Du nord de la Seine au Grand Est et sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc une journée très ensoleillée avec cet après-midi 14 à 17 degrés sur les régions méridionales et une moyenne de 10 degrés sur le reste du pays.
Jean-Michel Golinski, Météo France.